Deuxième partie. Cette année-là, je fus reçu bachelier ès-lettres et je m'installai chez le grand-père pendant les vacances en attendant d'aller faire mon droit à Paris. J'avais ma chambre au-dessus de la librairie. Mes fenêtres donnaient sur la petite place des acacias et les moineaux m'éveillaient de bon matin en se poursuivant de branche en branche. Je lisais, je rêvais, je me traçais un plan pour mes études. Le grand-père ouvrait son magasin à 6 heures du matin. On déjeunait à 11 heures, on dînait à 7, et puis le soir on causait, on lisait les journaux, et on faisait des réflexions sur les événements du jour. À cette époque, les révérends pères jésuites réclamaient la liberté de l'enseignement au nom de la charte, et le grand-père, voltairien dans l'âme, s'écriait « Oh, voilà les hommes noirs qui se remettent en campagne. Ils ont déjà perdu Charles X avec leur loi du sacrilège, leur droit d'aînesse, leur mission à l'intérieur, etc. Mais il leur est resté quelque chose. Du pain à beau dire, ils ont pris, on leur a repris, ils prennent, on leur reprendra. » Pour leur reprendre en gros ce qu'ils obtiennent en détail, il faut toujours une révolution. Les hommes qui les combattent passent, leur ordre reste. Depuis 1830, on les croyait morts, et les voilà qui se relèvent avec audace, en réclamant des libertés chez nous. Eux, les plus grands ennemis de toute liberté, ils en veulent maintenant pour tout miner et renverser. Des libertés au nom de la charte encore. A-t-on jamais rien vu de pareil? Mais la charte est faite pour les Français, et ces gens-là sont italiens, ultramontains. Ils veulent nous absorber, nous exploiter, au profit d'une puissance étrangère. Que diraient les Anglais, les Allemands, les Russes, si nous allions, nous, Français, réclamer au nom de leurs propres lois la liberté de fonder chez eux des écoles, des collèges, des universités, pour enseigner à leurs enfants que le chef de leur nation est roi de France? Ils nous riraient au dé, ils nous mettraient brusquement à la porte, et ils auraient 1000 fois raison. Est-ce que la charte a été faite pour les jésuites? Est-ce qu'elle n'a pas été faite malgré eux et contre eux? Est-ce qu'il n'a pas fallu renverser leur roi et leur pouvoir pour l'établir? Et c'est la charte qu'ils osent invoquer. Et pourquoi le Saint-Père ne nous permet-il pas d'enseigner la charte à Rome? Ne croit-il plus bête que lui? Chacun n'est-il pas maître chez soi? Ah, oh, race abominable! Quel malheur pour la France de l'avoir fixée avec acharnement sur elle! Ne dirait-on pas que nous sommes leur proie? Oui, ces gens-là s'attachent à nos jambes comme des noyés en criant « Il faut que tu me sauves ou que tu périsses avec moi !» Ainsi s'indignait le grand-père. « Si Louis-Philippe consentait à cela, disait-il, ce serait un homme perdu, comme si je donnais moi la liberté aux rats de venir ronger mes livres et de se nicher dans mes armoires. Il m'aurait bientôt fait des guerres pires. » « Mais, lui disais-je, crois-tu donc, grand-père, que cette compagnie de Jésus soit aussi dangereuse qu'on le prétend ?»« Si je le crois, s'écriait-il, mais c'est la plus dangereuse société secrète qui soit au monde. » C'est une association bien moins religieuse que politique, organisée sur le même plan que celle des anciens Templiers. Les Templiers voulaient établir en France leur théocratie militaire. Les Jésuites veulent y fonder leur théocratie politique. On leur reproche avec justice la même ambition et les mêmes crimes. Les Templiers, par leur orgueil, par leur richesse accumulée à la suite de donations exorbitantes, par leur possession territoriale, leur grand prieuré, leur commanderie, par la corruption de leurs mœurs et de leur morale, ont troublé profondément les XIIe, XIIIe et XIVe siècles. Il a fallu toute l'énergie de Philippe le Bel pour les détruire. En les faisant arrêter d'un seul coup, il a sauvé la civilisation et le christianisme. Eh bien, ceci les remplace avec plus de ruse et toute l'expérience acquise des autres. Ignace de Loyola ne pouvait ignorer leur statut, et il a pris chez eux ces fameux exercices et leur discipline dont le caractère est éminemment militaire. Une société de célibataires où l'on n'admet pas d'imbéciles ni de brouillons capables de troubler l'ordre, dont tous les membres s'observent depuis le général jusqu'au soldat, où l'on n'agit que sur avis express, délibéré dans le secret, où l'on entre au dernier rang auprès de longues épreuves, une corporation fermée à l'État, faisant corps étranger dans l'État, ayant ses institutions, sa police et ses desseins à elle, et vivant aux dépens du pays, mais une telle société est redoutable. Elle nous a déjà valu toutes nos guerres religieuses sous l'Ancien Régime. La guerre de Vendée, au moment le plus dangereux de la Révolution, Dieu sait ce qu'elle peut nous valoir encore. Que importe pour eux que la France périsse pourvu que le jésuitisme triomphe. Le but des jésuites est aujourd'hui d'envahir l'instruction publique, de s'en emparer. Et au bout d'une ou deux générations élevées sous leur direction, ils seraient maîtres des esprits, ils gouverneraient la matière, c'est-à-dire tout ce qui se touche. Faisait-il en palpant une pièce de monnaie, tout ce qui sonne et s'entend, tout ce qui se goûte et se flaire. Tu comprends, Lucien, par l'esprit, on tient tout. Aussi, les révérends pères défendent le spiritualisme avec passion. Ils voudraient le défendre seuls, ils sont jaloux de leur mission. Leur ennemi mortel, c'est l'université, car l'université ne voulait pas que les jésuites soient plus spiritualistes qu'elle. L'université proclame le spiritualisme comme eux. Elle le soutient par la raison, par la science, par l'enseignement philosophique. Et les révérends pères, n'ayant rien à lui reprocher sous ce rapport, crient que la raison, la science, la philosophie ne signifient rien, qu'il faut la foi, que la foi vient d'en haut, qu'elle se fonde sur la révélation, et que la révélation leur appartient en toute propriété, et que le successeur de Saint-Pierre les a commis à sa garde. Ils attaquent tous les jours les premiers hommes de l'université, Cousin, Jouffroy, d'Aviron. Ils les accusent de panthéisme, d'athéisme, de matérialisme, contre toute vraisemblance et sans en donner la preuve. Les universitaires ont beau s'en défendre, les révérends pères leur crient « Vous êtes des matérialistes, des panthéistes !» Oh, si les jésuites parvenaient à établir que seul enseigne Dieu et l'âme immortelle, leurs affaires seraient en bonne voie de prospérité. Mais comme aucun gouvernement ne peut nourrir un peuple entier, comme il arrive des guerres, des pestes, des famines, et que d'ailleurs les misères individuelles sont innombrables, qu'on ne peut toujours ni les réviter ni les soulager, la seule consolation d'un malheureux, c'est l'espérance d'un avenir meilleur, même au-delà de la tombe. Et si les révérends pères seuls avaient ce quelque chose à promettre qu'on appelle la vie éternelle, alors, tôt ou tard, par l'extension du paupérisme, les trois quarts du genre humain entreraient dans leurs manches. Voilà le fond de l'histoire. Et le plus triste de tout cela, c'est que la politique de ces braves gens, aujourd'hui généralement connus, leur avidité, leur ambition sans limite, leur peu de scrupules, leur matérialisme évident, sont causes que les masses ne croient plus à rien. On juge les choses par ceux qui les prêchent. L'exemple passe avant, les meilleurs préceptes et les derniers paysans se répètent entre eux. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, en clignant de l'œil et se trouvant aussi malin que les missionnaires. Pourtant, grand-père, lui disais-je, la liberté est une belle chose, et quand les jésuites réclament la liberté d'enseigner, il me semble que c'est leur droit. Ces gens-là ne sont pas tous italiens. Lamennais, Lacordaire demandent aussi la liberté de l'enseignement. Est-ce que tu les prends pour des jésuites ? Lamennais, disait-il en souriant. Lamennais, en 1825, dans sa tradition de l'Église sur l'institution des évêques, attaquait les principes gallicans avec fureur et niait toute autorité de la nation et même du roi dans les affaires ecclésiastiques. Dans son essai sur l'indifférence en matière de religion, il niait l'autorité de la raison individuelle et n'admettait que celle de l'Église. Les plus violents articles du Drapeau blanc et de la Quotidienne contre la libre discussion étaient de lui. Il demandait la répression à outrance. Son livre « La religion considérée dans l'ordre politique » déchirait la déclaration du clergé gallican de 1682. La monnaie était alors l'un des plus ardents adversaires de toute liberté. Et puis voilà que 1830 arrive. Le peuple a le dessus et, du jour au lendemain, la monnaie est convertie à la liberté. Ils font de l'avenir avec Montalembert et Lacordaire. Les braves gens prennent pour devise Dieu et la liberté, le pape et le peuple. Ils veulent révolutionner les masses, les soulever contre la société et présenter ensuite la religion catholique, apostolique et romaine comme le seul moyen de rétablir l'ordre et de sortir du chaos. Et dans leur enthousiasme, ils vont jusqu'à réclamer la séparation immédiate du spirituel et du temporel. Mais alors, halte ! Grégoire XVI, qui tenait au temporel, les condamne avec éclat, eux et leurs théories, par sa fameuse lettre encyclique de septembre 1832, il déclare toutes leurs idées de régénération de l'Église absurdes, la liberté de conscience une folie, la liberté de la presse une abomination, la soumission au prince un article de foi. Et les trois camarades courent à Rome pour faire revenir le Saint-Père sur sa décision. Mais Grégoire XVI reste inébranlable, il tient au temporel mordicus. Montalembert et Lacordaire se courbent, reconnaissent leur tort et se frappent la poitrine. Mais Lamennais, lui, furieux de voir son grand projet incompris par celui-là même qui devait en profiter, attaque l'Église et la monarchie. Il écrit l'esclavage moderne, les paroles d'un croyant, le pays et le gouvernement. Il est traduit en police correctionnelle et condamné. Il écrit une voix de la prison. Eh bien, grand-père, il avait raison. On a toujours raison de protester contre l'injustice. Sans doute, Lucien, c'est toujours très beau de se redresser sous le joug qui nous accable. Je l'estime bien plus que ses collaborateurs, Montalembert et Lacordaire, heurtant de leur front le parvis de Saint-Pierre de Rome. Il a montré du caractère. Mais si Charles X n'était pas tombé, Lamennais aurait poursuivi sa guerre contre la liberté, contre la raison et le bon sens comme il l'avait si bien commencé. Il aurait continué d'exalter le pouvoir despotique soumis seulement à l'autorité du Saint-Siège. Le pape l'aurait béni, et peut-être serait-il devenu cardinal. Il l'aurait bien mérité. La victoire du peuple seul l'a fait changer d'opinion, le fait matériel et non le sentiment du droit. Si les Suisses avaient triomphé de Montalembert, Lacordaire et Lamennais auraient triomphé avec eux. Au point de vue catholique, Lamennais, après la défaite de son parti, a tout bonnement passé à l'ennemi avec armes et bagages, tandis que les deux autres sont rentrés dans les rangs en se soumettant à la discipline. Lamennais est pour eux un traître. Du reste, il en sera toujours ainsi. Les jésuites, volontaires ou autres, combattent soi-disant pour le triomphe du Saint-Siège. Et quand ils réussissent, c'est très bien, on les approuve. Ils ont de l'avancement. Et quand ils échouent, on les renie, on les condamne, absolument comme faisait Bonaparte. Il empochait les succès et laissait les défaites au compte de ses généraux, en menaçant encore de les faire fusiller. C'est la théorie du succès, c'est du matérialisme. La réussite fait tout en politique. Pour moi, Lucien, je le reconnais comme digne de respect que nos simples curés, nos bons prêtres réguliers, qui remplissent leurs devoirs sans bruit, sans ostentation, et ne se mêlent pas de politique. Ceux-là seuls sont les vrais disciples du Christ qui disaient « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Les autres en masse, aspirant aux jouissances du pouvoir, aux honneurs, à la fortune, pour la plus grande gloire de Dieu, oh, je les considère tout bonnement comme des jésuites. S'ils ne sont pas de la compagnie, ils méritent d'en être. D'après cette façon de voir, je suis sûr de ne pas me tromper. Le grand-père, ayant manié depuis 40 ans tous les livres qui passaient par son magasin, en citait les titres et la date avec une sûreté de mémoire qui m'émerveillait. Or, pendant ses vacances, il arriva quelque chose d'extraordinaire. Depuis quelques jours, on faisait des quêtes à Sainte-Suzanne pour la propagation de la foi chez les infidèles. Un moine du Mont Carmel était arrivé tout exprès de la Terre Sainte. Il demeurait au presbytère, et tantôt M. le curé Blanchard, tantôt l'un de ses vicaires, l'accompagnait chez les personnes pieuses. Nous ne pensions pas le voir arriver chez nous, lorsqu'un matin, le grand-père et la tante étant à servir au magasin, il parut sur le seuil avec M. le curé. J'étais debout contre la petite porte de l'arrière-boutique, regardant ce qui se passait au dehors, lorsque ce personnage, en robe de bure blanche, le front chauve, la barbe grise, descendant jusqu'à la ceinture et le nez en bec d'aigle, monta les trois marches de la librairie, suivi de M. Blanchard. Il me parut très vieux et je le regardais avec respect pendant qu'il venait de si loin pour remplir sa mission pieuse. Aussi quel ne fut pas mon étonnement de voir le grand-père se dresser brusquement derrière son comptoir et fixer sur lui ses yeux noirs d'un air de stupéfaction profonde. Mais le moine aussi tressaillit en apercevant une sorte de pâleur se répandit sur ses joues. M. Blanchard, plus loin, causant avec la tante Clarisse, ne voyait rien, il souriait. Moi seul, j'observais cette scène étrange. Tout à coup, le vieux moine et le grand-père, sans s'être dit un mot, allongeant le pas, entrèrent précipitamment comme des jeunes gens dans l'arrière-boutique. J'avais grimpé à l'échelle de la bibliothèque. Ils ne me virent pas d'abord et le grand-père, d'une voix sèche, dit à l'autre « C'est vous, monsieur Cazenave, que je vois ici ? Vous osez entrer chez moi ? Vous avez donc oublié ce qui s'est passé entre nous ?»« Eh ! » fit le vieux moine en asillant d'un accent étranger, « je vous croyais mort. »« Moi, je vous croyais au diable, » répliqua le grand-père. « Ben, c'est tout comme, » dit l'autre d'un ton d'indifférence. « Mais que voulez-vous ? Rien, c'est le hasard et le curé qui m'ont conduit chez vous. Mettons que je ne sois pas entré. »« Soit, » fit le grand-père, m'apercevant sur l'échelle au fond de la bibliothèque. Et comme M. Blanchard entrait, la conversation cessa. « Eh, père Baptiste, » disait le bon curé en souriant, notre éloquence et nos peines seront perdues ici, je vous en préviens. Nous avons affaire à un voltairien incorrigible et qui se soucie peu de convertir les infidèles. » Alors le grand-père, reprenant son air de bonhomie, lui répondit « Monsieur Blanchard, vous avez tort. Puisqu'il s'agit de convertir les infidèles, convertissez-moi, je ne demande pas mieux. » « Ah, dit le curé, il s'agit des infidèles de l'Asie. »« C'est indifférent, dit le grand-père, mais lorsqu'il s'agira des infidèles de l'Europe, venez me trouver. » Comme ils étaient seuls, M. le curé se mit à rire. Il ne me voyait pas au haut de mon échelle, en train de ranger des livres près du plafond. Puis ils sortirent. Le moine disait « Nous repasserons, monsieur le curé, nous repasserons. Monsieur le libraire est occupé, nous repasserons. » La porte se referma, et redescendant tout ébahi, je me demandais comment le grand-père, établi depuis tant d'années à Sainte-Suzanne, avait pu connaître ce moine du Mont Carmel. Il devait s'être passé bien des années depuis leur dernière rencontre, puisque tous deux se croyaient morts. Et puis, ce ton de familiarité m'étonnait aussi. Tout le jour se passa sans que le grand-père me dît rien du moine. Il semblait préoccupé et ne faisait pas de réflexion, comme d'habitude, sur le monde qui défilait au magasin. Mais le soir, après souper, la tante Clarisse ayant levé la nappe et s'étant retirée vers 9 heures, il déposa son journal et me dit « Le hasard t'a rendu témoin de mon indignation à la vue du moine qui s'est présenté ce matin à la maison. C'est le plus grand scélérat que j'ai rencontré dans ma vie. Après ce début qui m'avait rendu fort attentif, le grand-père, au bout d'un instant de rêverie, comme pour réveiller ses souvenirs, poursuivit. C'est ici, dans cette chambre, en 1804, ou il y a 40 ans, que s'est passée la scène que je vais te raconter. La bibliothèque n'existait pas encore, elle s'est formée plus tard. J'avais établi ici mon atelier de relieur. Là, dans ce coin près de la cheminée, se trouvait le petit fourneau où je cuisais ma colle forte, mon pot-au-feu. J'étais seul. Ta grand-mère, alors en couche de notre second enfant, se trouvait à Ribeauvillier, chez ses parents. L'ouvrage ne me manquait pas. Le nouveau code étant promulgué depuis quelques mois, la municipalité me donnait à relier les anciens actes de l'état civil, écrits en partie sur des feuilles violentes. Il aurait d'abord fallu les collationner avec soin et selon leur date. En outre, le collège venait de se fonder. On espérait obtenir un prix tanné à Sainte-Suzanne. Je vendais des dictionnaires, des rudiments, des munitions de bureau aux élèves. Tout allait bien. Au-dessus du magasin demeurait M. Baruch Lévy, qui m'avait vendu la maison en se réservant pour 5 ans l'habitation du premier. Je venais d'effectuer le paiement du second terme, et les autres étant échelonnés d'année en année, j'étais sûr d'y faire face à mesure des échéances. Dans ce temps-là, M. Lett, curé constitutionnel rétabli dans son presbytère depuis le Concordat, vint me présenter un de ses confrères, homme de 35 ans environ, grand, sec, à la physionomie énergique. Italien, d'après son accent, mais s'exprimant avec facilité dans notre langue. Il me le présenta comme un client auquel je pouvais faire crédit. C'est ainsi que je connus M. Cazenave. Il venait souvent me voir. Je lui racontais ma campagne sous le Courbe, dans la Valteline, et je ne lui cachais pas que l'éloignement des généraux du Rhin, depuis le 18 de Brumaire, m'indignait. Lui se promenait de long en large dans cette chambre, en me regardant travailler, et déblatérait contre le premier consul, qui trouvait un fort tiède républicain, quoique ancien jacobin, ami de Robespierre, jeune, en quoi certes il n'avait pas tort. Mais M. Cazenave regrettait Caius Gracchus Babeuf et son ami Buonarroti, disant que la nature nous a donné les mêmes droits à tous les biens de la terre, et qu'il fallait rétablir ce droit à tout prix, que le peuple français devait être déclaré propriétaire unique du territoire national, le travail de chacun réglé par la loi comme fonction publique et sur le pied d'une égalité complète, sans aucune exception, que le pouvoir national devait être exercé par des magistrats chargés de veiller à l'emmagasinement et à la répartition des produits, au mouvement du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, sans se soucier aucunement du progrès des sciences et des arts, qui ne sont propres, disait-il, qu'à corrompre les mœurs. Et pour arriver à cela, M. Cazenave soutenait qu'il fallait exterminer tous ceux qui voudraient s'y opposer. Il me faisait frémir, et pourtant je m'écriais en moi-même, « Quel homme, oh, tu ne seras jamais à la hauteur du citoyen Cazenave !» Je n'osais le contredire, admirant malgré moi ses idées et pensant. C'est trop beau. Les gens sont trop égoïstes pour tout mettre en commun. Un grand nombre défendraient leurs biens avec acharnement. Il faudrait massacrer trop de monde pour arriver à cet état de perfection. Et puis ce serait toujours à recommencer. Une quantité d'individus ne voudraient rien faire et d'autres travailleraient, accapareraient tout. On demanderait de nouveaux partages. Quel dommage, si tout le monde était comme M. Cazenave, nous aurions le paradis sur la terre. Et c'est ainsi que cet homme m'avait endoctriné. Son compte grossissait tous les jours. Je ne sais pas ce qu'il pouvait écrire pour consommer tant de plumes, d'encre et de papier. Au bout de 5 mois, il m'en devait pour 200 francs. Je lui aurais donné la moitié de mes marchandises, tant il m'avait convaincu de son génie et charmé par son éloquence. Les choses en étaient là lorsque, le 4 mai, Bonaparte fut nommé empereur héréditaire sur la motion du tribunal adoptée par le Sénat conservateur afin d'assurer au peuple français sa dignité, son indépendance et son territoire et d'empêcher le retour du despotisme, de la noblesse, de la féodalité, de la servitude et de l'ignorance, seul présent qui puisse faire au peuple les Bourbons s'ils revenaient jamais. Ce sont les propres termes du Senatus Consulte. Puis le pape va sacrer le nouvel empereur à Notre-Dame, et M. Cazenave, changeant tout à coup d'opinion sur l'ami de Robespierre jeune, qui ne le trouvait pas assez républicain quelque temps avant, l'appelait un second David, un Josaphat, un Mattathias, l'œil de Jéhovah, le bras droit de l'Éternel. J'en étais étonné. Mais peu de temps après, le pape Pie VII, qui s'était flatté de recouvrer les domaines de l'Église en donnant au nom du Seigneur la couronne des Bourbons à Bonaparte, ayant été renvoyé les mains vides aux éclats de rire des patriotes, M. Cazenave devint tout sombre. Il s'asseyait derrière mon fourneau, les bras croisés, les lèvres serrées. Il ne disait plus rien. La société de M. Lett, ancien curé constitutionnel, l'ennuyait, mais il n'était pourtant pas fâché d'aller s'asseoir à sa table matin et soir. Ces choses-là me sont revenues plus tard, alors je n'y faisais pas attention, pendant que M. Cazenave, homme du midi, se trouvait malade pendant ces rues d'hiver de 1804 à 1805. Il était devenu sec comme un clou. Vers le printemps, Napoléon s'étant aussi fait couronner roi d'Italie, un soir, en lisant au journal le beau compliment que les autorités de Milan avaient fait aux héros, « Hier, vous aviez 30 ans, aujourd'hui, vous avez 1000 ans, il se mit à pousser de tels éclats de rire que je crus qu'il devenait fou. Le lendemain, il disparut pendant environ un mois. Je pensais ne plus le revoir et j'étais sur le point d'aller m'informer chez M. Lett de ce qu'il était devenu, lorsqu'un matin, M. Cazenave s'élance au magasin en criant « L'empereur arrive dans une heure, j'ai quelque chose à lui demander, voulez-vous m'écrire la pétition que je vais vous dicter ?» Il pouvait être alors 8 heures. La ville était encombrée de monde, les canonniers à leurs pièces, sur les remparts, n'attendaient plus que le signal pour saluer le grand homme. Et les sonneurs de la cathédrale, les cordes entre les mains, n'attendaient que le premier coup de canon pour mettre toutes les cloches en branle. « Vite, asseyez-vous, » me dit M. Cazenave, « nous n'avons pas une minute à perdre. » Moi, content de voir qu'il ne s'était pas échappé et que ma créance n'était pas perdue, je m'assis devant une belle feuille de papier pour écrire. Mais à la première ligne, je me retournais pour voir s'il était bien dans son bon sens. Je me souviens textuellement de cette pétition. Elle commençait à la manière de Caius Gracchus Babeuf, et je ne comprends pas encore aujourd'hui comment, malgré ma jeunesse, l'idée ne me vint pas de jeter à ma plume là, de lui dire d'écrire lui-même. Enfin, voici ce qu'il me dicta. Sire, Alexandre, Hannibal, César n'étaient que des gens en foutre auprès de votre majesté. Vous avez écrasé les barbares comme le Macédonien, abaissé les Alpes comme le Carthaginois, souffleté l'orgueil des aristocrates comme le neveu de Marius. Vous êtes 3 fois grand, 3 fois sacré par l'admiration des peuples. Mais, soit dit entre nous, votre code Napoléon n'est qu'une véritable ripopée. Napoléon, Bonaparte, doit avoir en fait de législation d'autres idées que Condebaud de Bourgonde. Et cela continuait dans le même style d'un bout à l'autre. Mais à chaque instant, je me disais, il perd la tête, ça n'a pas le sens commun. Il le voyait à ma mine et me répétait « Faites pas attention, nous allons tout revoir, c'est le projet, le brouillon, allez, allez !» Et tout d'un coup, un grand cri s'élève dehors « Vive l'empereur !» Le canon tonne. Lui me prend la plume de la main et signe après avoir fait 3 ou 4 grosses ratures. « Mais attendez donc, lui disais-je en le voyant prendre le papier pour sortir. Vous voyez bien que ce n'est pas présentable, il faut recopier cela. » Mais sans m'écouter, il traverse le magasin en courant et se précipite dans la rue au milieu de la foule immense. Les cloches sonnaient, le canon tonnait. De ma porte, je voyais sa grande manche s'élever d'instant en instant au-dessus de la multitude, la pétition à la main. Enfin, il arrive à la voiture de l'empereur, au tournant de la grande rue. Quelqu'un se penche sur le siège, enlève la pétition. Les cris redoublent, les voitures défilent au trot entre la haie des soldats. Et je rentre, me disant à moi-même, « Mais décidément, ce Cazenave est fou. J'aurais dû m'en apercevoir depuis longtemps. » Le bruit s'éloignait, la foule suivait les équipages sur la route de Juvencourt. Le canon et les cloches continuaient de tonner et de bourdonner en ville. Au bout d'une heure, le calme s'était rétabli et j'avais repris mon travail. Lorsque le brigadier de gendarmerie et le juge de paix, M. Duhamel, entrèrent tout à coup dans ma boutique. Le brigadier, me montrant la pétition de Cazenave, me demanda « Vous avez écrit cela ?»« Oui, lui répondis-je, bien étonné. C'est M. Cazenave qui me l'a dicté. » « Entrons, dit le juge de paix, car plusieurs personnes leur avaient suivi au magasin. Nous entrons donc ici, et le juge de paix me demande d'où je connais le nommé Cazenave. « C'est monsieur le curé qui me l'a présenté, lui dis-je. Il me l'a recommandé comme un client auquel je pouvais avoir confiance. » En même temps, j'ouvris mon grand livre et je leur montrai la note de 200 francs du citoyen. « Vous n'avez pas connu cet homme autrefois ?» me dit monsieur Duhamel en me regardant dans le blanc des yeux. « Vous n'avez jamais passé par Fribourg pendant votre campagne de Suisse ?» car vous avez fait la campagne de Lancette. Oui, monsieur le juge de paix, mais je n'ai jamais passé par Fribourg. Je n'ai connu monsieur Cazenave qu'ici. Monsieur Lette lui-même pourra vous le dire. Mais nous venons de chez lui, s'écria le brigadier, et vous avez de la chance qu'il soit d'accord avec vous. Il y a loin de Sainte-Suzanne à Madagascar, mais on y va tout de même. Vous ne seriez pas le premier. « Monsieur le Bigre, me dit alors sévèrement le juge de paix, vous êtes encore bien jeune. Songez que pour avoir écrit cette pétition, vous avez risqué votre tête. »« Ma tête, oui, votre tête. Mais, monsieur le juge de paix, taisez-vous, fit-il, vous n'avez pas la parole. Ce Cazenave est un jésuite italien qui poursuit sa majesté depuis longtemps. Il a déjà tenté plusieurs fois de l'assassiner. » Il vient encore d'échapper à la vengeance des lois. Si vous n'aviez pas la réputation d'un jeune homme paisible, notre devoir serait de vous arrêter. Mais c'est la jeunesse et l'ignorance qui vous ont fait écrire cette pétition. Quel bonheur que la voiture de Sa Majesté ait été lancée au trot. Le misérable aurait profité de l'étonnement et de l'indignation du grand homme à la vue de ses ratures et de ses insolences pour le frapper. Enfin, monsieur le curé s'est aussi laissé tromper par le bandit, et les rapports sur votre compte sont bons. Oui, dit le brigadier, l'ordre porte seulement de vous interroger, mais si vous aviez répondu que ce n'était pas vous, je vous aurais empoigné tout de suite. Ils sortirent là-dessus, me laissant stupéfait de ce qui venait d'arriver, et durant quelques jours, je restais dans l'inquiétude. Heureusement, l'affaire n'eut pas d'autre suite. Tu dois comprendre maintenant ma surprise, en voyant Cazenave reparaître sous l'habit d'un moine du Mont Carmel. Voilà les jésuites. Quand un de leurs hommes a manqué son coup, il disparaît. Il n'en est plus question. La Sainte Confrérie a d'excellentes retraites pour tous ses membres. Elle a des postes à donner aux sujets méritants, des missions sur toutes les côtes du monde. Elle est fort riche, malgré le vœu de pauvreté. Enfin, c'est l'association la plus puissante, la plus dangereuse que l'on connaisse. Elle ne recule devant aucun moyen pour étendre sa domination. Bonaparte, cet homme terrible, craignait les jésuites. Il savait que des assassins le suivaient pas à pas et que sa police, si bien organisée, n'avait jamais pu mettre la main sur aucun d'eux. Cela lui donnait à réfléchir, et toutes les concessions qu'il fit à l'Église sont venues en grande partie du sentiment intime de son impuissance à vaincre un danger sans cesse renaissant. Il crut devoir faire la part du feu et fit cette part aux dépens de la France. Combien de fois le souvenir de ce casse-nave m'est revenu. Je me disais qu'il avait été supprimé, comme tant d'autres hommes énergiques dont la crainte poursuivait le despote. Mais les jésuites ont sauvé leur homme. Il est vieux, il est rassasié de jour, comme dit la Bible. Il se porte à merveille. Les idées de Caius Gracchus Babeuf n'étant plus de mode, c'est maintenant avec les Chinois et les Japonais qu'il exploite la bêtise humaine. Quant à toi, Lucien, profite de cet exemple pour être toujours sur tes gardes. Ne donne jamais dans les opinions exagérées. La vérité, la justice et le bon sens s'accordent toujours avec la modération. N'écoute jamais les hommes exclusifs dans leur manière de voir. Ce sont des utopistes ou des misérables payés par les jésuites pour compromettre et perdre les causes les plus justes en les poussant à l'absurde et à la violence, afin d'en dégoûter les honnêtes gens. Souviens-toi de ce casse-nave venant me prêcher l'égalité absolue et finissant par reparaître devant moi sous la robe d'un moine. Les jésuites se serviront encore plus d'une fois des idées de Babeuf pour exciter la masse ignorante du peuple contre la bourgeoisie. Diviser pour régner, tu es jeune, tu verras cela. Ainsi me parla le grand-père. Et peu de temps après cette conversation, la fin des vacances étant arrivée, nous nous embrassions avec attendrissement et je partais pour aller faire mon droit à Paris. Il faisait chaud en ce mois d'octobre 1844. Je me trouvais à l'impérial de la diligence avec un gros curé, bien paisible, les joues luisantes, la calotte sur la tonsure, la soutane toute blanche de poussière et qui venait de s'assoupir dans son coin contre la bâche, le bréviaire sur les genoux. Et puis le conducteur, un de ces vieux conducteurs de messagerie, Lafitte et Gaillard, rond, jovial, mais despotique sur sa voiture, comme un capitaine de vaisseau sur son bord. Nous roulions dans un flot de poussière. Ceux de l'intérieur et de la rotonde devaient étouffer. Nous autres, nous avions un peu d'air. Les arbres, les haies poudreuses défilaient. Le conducteur et moi nous eûmes bientôt fait connaissance. Jeune homme, vous allez à Paris ? Oui, conducteur, je vais finir mes études là-bas. Je m'en doutais. On va faire son droit, sa médecine. Il riait. On va s'ordonner de la Chaumière, du Prado, du Château Rouge. Quelle existence, Dieu de Dieu ! Quelle existence à 20 ans ! Et voyant arriver une descente, il se baissait pour tourner sa manivelle en poursuivant. « Mais vous êtes frais comme une marguerite des champs. Mais l'année prochaine, quand je vous ramènerai, vous connaîtrez la vie, vous aurez tenté du quartier latin. Oh, j'en ai vu plus d'un comme vous, des innocents, des ingénus. » Il clignait de l'œil. Et au bout d'une ou deux tournées, ils étaient culottés comme ces vieux bouts de pipe qu'on a de la peine à rallumer. Il tirait à sa pipe en appuyant dessus l'amadou avec le briquet. « Oui, de la peine, bien de la peine à rallumer. » Il pompait. « Enfin, ça y est tout de même, faisait-il, ça tire. » Ainsi se parlait le conducteur, lançant une bouffée sans plus songer à moi. Puis s'adressant au cocher, « Hé, Casimir, je crois qu'on s'endort. » Casimir donnait un coup de fouet, les gros chevaux se remettaient à trotter. J'étais tout rêveur, songeant au pays qui s'en allait, au clocher de Sainte-Suzanne qui s'effaçait, au bon grand-père en train de coller des étiquettes et qui m'avait embrassé les larmes aux yeux. Puis à Nancy, Bar-le-Duc, Épernay, où l'on faisait halte pour dîner. Et tout au bout de la route blanche, à Paris, la grande ville. Ces idées se promenaient dans ma tête, tantôt mélancoliques, tantôt souriantes, avec mille autres semblables. « Vous avez retenu votre logement au quartier latin, » reprenait le conducteur, « rue de la Harpe, rue des Grès ?» Mais sans attendre ma réponse, « Oh, je connais ça, c'est mon quartier, je suis du 12e. J'ai poussé dans l'ombre de la Sorbonne, mais il y a bel âge. J'étais apprenti typographe avec un chapeau de papier et je composais déjà mes 3 lignes à l'heure quand j'ai changé d'idée. J'ai peut-être eu tort. Les dîners de tableau d'hôte ne valent pas les fricots de ce temps-là. Une poularde me produit moins d'effet aujourd'hui qu'une galette de 2 sous en 1810. C'est pour dire que la jeunesse embellit tout. Aujourd'hui, on va chez des forges au coin de la place Saint-Michel. Vous connaîtrez ça, jeune homme, et les jours de neige. Vous irez chez Flicoteau, rue des Mathurins. Un bouillon, un bœuf, des pommes de terre frites, une topette, 12 sous. Ça n'est pas fort, pas cher, ma foi. Après ça, une chambre à 20 francs, 3 cigares, 5 centimes par jour, un dîner le dimanche à 32 sous chez Tavernier. La petite au bras, le blanchissage, 4 francs. Oh, décidément, Casimir, ça va pas. Vos chevaux ont déjà fait le relais ce matin. Je répondrai sur ma tête, ils dorment, en marchant comme des taupes. Le cocher redonnait son coup de fouet et le recommençait à galoper. Oui, avec 150 francs par mois, on est à Rothschild, au quartier latin. On roule sur l'or. Si j'avais eu 150 francs à dépenser par mois, je me serais mis étudiant amateur en médecine, en botanique, en n'importe quoi, comme beaucoup d'autres. Et je serais maintenant, bon, président à la Cour de cassation, avocat général, chirurgien-major, inspecteur de quelque chose. J'aurais ma retraite et des rentes au lieu d'attraper des courants d'air au service de la compagnie. Voilà. C'est la chance qui fait tout, il me fallait 150 francs et je ne les avais pas. Ces réflexions du conducteur ne m'empêchaient pas de rêver. Je l'écoutais, perdu dans mes réflexions. Le curé, mon voisin, sommeillait toujours. De temps en temps, ses gros yeux s'entr'ouvraient à demi, sa tête se relevait puis retombait sur l'épaule contre la bâche. Je ne sais quelle mouche piqua le conducteur, mais au bout de 3 ou 4 relais, étant descendu chaque fois pour surveiller l'attelage, prendre les commissions au bureau et se rafraîchir d'un petit verre, la chaleur et la poussière aidant, il se trouva lancé et me touchant du coude en clignant de l'œil. « Le curé dort, » fit-il. « Oh oui, je crois que oui, conducteur. »« Eh bien, moi, je ne le crois pas. Il nous écoute. » Ça l'intéresse, la chaumière, le prado. Il voudrait pincer un petit cancan. Oh, conducteur. Bon, je vous dis, moi, qui voudrais entrer au quadrille avec Bibi et la reine Pomarée. Et comme le curé en trouverait les yeux, avez-vous vu ça, hein? Je me taisais, tout honteux. Et lui, sans tenir compte de mes signes, ajoutait, « Ça m'étonne pas, les jésuites sont en campagne. Celui-ci, bien sûr, est parti de son village pour entendre prêcher la cordère à Nancy. On fait des grandes histoires avec la cordère. Eh bien, il y a 3 ans, par curiosité, j'ai voulu l'entendre à Notre-Dame. On jurait une marchande de plaisir à la porte des théâtres. Demandez du plaisir, mesdames. Et puis, de temps en temps, il se regorge et l'on croirait un marchand de vieux habits. Vieux habits à vendre! C'est à vous faire suer, parole d'honneur. Il n'y a que les calotins pour se louer entre eux. Si vous voulez réussir, jeune homme, mettez-vous dans la calotte avec un brin de talent, ils en feront des montagnes. » Je ne pouvais l'empêcher de parler, c'était un de ces hommes qui redoublent lorsqu'on les contredit. Et puis à cette époque, toute la France se divisait en deux parties, pour ou contre les jésuites. Mais ce pauvre curé n'en était pas cause, et je me sentais indigné des propos du conducteur. Il s'en aperçut et me dit en fronçant le sourcil, « Oh, ça, vous ne tenez pas pour la calonne, j'espère. » Je tiens pour la politesse et les convenances, lui répondis-je. Vous voyez bien que monsieur ne dort pas, et vous l'appelez jésuite. Alors je fus tout étonné de voir le gros curé se redresser en baillant dans sa main et répondre. Oh, monsieur ne m'offense pas, en m'appelant jésuite, au contraire, il me flatte. Je voudrais être jésuite, mais un vrai jésuite. C'est une classe de gens où l'on trouve moins d'imbéciles que dans celle des conducteurs de diligence. » Le conducteur à cette réplique, se retournant brusquement, lui demanda « C'est pour moi que vous dites cela, monsieur le curé ?»« Je parle des imbéciles en général, » répondit le gros homme avec nonchalance. « Je ne parle d'aucun imbécile en particulier. » Puis, rouvrant son bréviaire, il se mit à lire avec le plus grand calme. Le conducteur ne répondit rien d'abord, mais au bout d'un instant, levant le siège de la banquette, il y prit un paquet de journaux en me demandant « Vous avez lu ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est mon feuilleton, le Juif errant. » J'avais entendu le grand-père parler de ce nouvel ouvrage d'Eugène Sue, qui devait paraître bientôt en livraison, mais je ne le connaissais pas encore. « C'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre d'Eugène Sue, » dit le conducteur. « Je fais deux fois par semaine le voyage de Strasbourg. Eh bien, j'emporte mon feuilleton pour le lire à la Maison Rouge, le soir quand j'arrive. J'en perdrai les yeux. Oh, ça me tient réveillé jusqu'à 2 heures du matin. Rien que pour ce livre, Eugène Sue mériterait une place au Panthéon entre Voltaire et Jean-Jacques. » Alors, c'est mieux que les mystères de Paris ? « Des mystères de Paris, » fit-il en haussant les épaules, « auprès du Juif errant, c'est de la dialogue, de la camelote, de la vraie camelote. Figurez-vous qu'il y a là-dedans un particulier nommé Rodin, un socius, comme les jésuites s'appellent entre eux, qui pourra gripper l'héritage de deux pauvres orphelines et de toute la famille Renpont, dispersée dans le monde par les crimes de l'Inquisition, soulève tous les brigands de la terre contre elle et les autres membres de la famille, et les extermine tous. Finalement, vous croyez être à l'exposition de Curtius, au boulevard du Temple. Les morts, hommes, femmes, enfants, sont alliés dans leur cercueil, et ça ne produit pas plus d'effet sur le socius que s'il prenait une prise de tabac. Canaille ! N'est-il possible qu'on supporte des scélérats pareils au milieu du XIXe siècle, des Rodins, des docteurs baleiniers, des madames de Saint-Dizier, des mères Sainte-Perpétue, des madames de Sainte-Colombe. Voilà ce qui fait que le commerce est arrêté, que les fabriques ne vont plus, que nous avons des grèves et que je retourne les 3/4 du temps à Paris avec la moitié de mon chargement, quand l'année dernière encore, tout était bondé de marchandises. Aujourd'hui, tout est en déroute, les pommes de terre ont des vers blancs. Oui, ça gagne jusqu'aux pommes de terre, le pourriture, s'y met comme dans tout le reste. Et si l'on ne prend pas des mesures contre cette peste, la société tournera en autre boudin. Et ça réclame l'instruction de la jeunesse. Ah oui, c'est chez eux que j'enverrai mes filles et mes garçons, qu'ils y comptent, pour en faire des caboches, des Françoise Baudouin, des couches tout nues. » En ce moment, monsieur le curé déposa son bréviaire et me dit Vous êtes témoin, monsieur, des outrages que je subis depuis 1 heure. Vous voudrez bien en témoigner à l'administration où je vais déposer ma plainte dès notre arrivée à Paris. L'administration se moque des jésuites, répliqua le conducteur. Les opinions sont libres, vous avez les vôtres et moi j'ai les miennes. C'est ce que nous verrons, dit le curé. Si ma plainte n'est pas accueillie par l'administration, je la porterai en justice. Je la ferai soutenir par maître Liouville, qui ne laissera pas tomber dans l'eau. Pourquoi citait-il maître Liouville plutôt que maître Fabre, maître Desmarets ou tout autre? Je ne l'ai jamais su. Mais le conducteur en parut vivement contrarié. Il vida lentement les cendres de sa pipe sur le tablier de l'impérial et la remit en poche. Puis, se penchant contre la bâche, il ferma les yeux. Nous montions une longue côte au pas. C'était à son tour de paraître dormir. Monsieur le curé, me regardant alors avec un sourire de bonne humeur, « Quoique vous ne soyez pas de la calotte, je vous en remercie pas moins, monsieur, d'avoir pris ma défense. Vous ne donnerez pas suite à votre menace ? » lui dis-je à voix basse. D'un signe de tête imperceptible, il me répondit que non. Et rassuré pour le conducteur par cette promesse, nous fûmes aussitôt dans les meilleurs termes. C'était un homme d'esprit et d'une conversation fort agréable. Aujourd'hui que j'y pense, après tant d'années, je suis étonné de l'art et du naturel avec lesquels il s'empara de ma confiance. Nous causâmes jusqu'à Paris de mes études, de mes projets, auxquels il paraissait s'intéresser, et même de mes goûts, dont il s'informa tout souriant. Je lui dis que j'aurais beaucoup aimé la chasse si j'avais eu des chiens, fusils et des forêts à ma disposition. « Cela ne m'étonne pas, faisait-il, je suis comme vous. Mes occupations, mon état ecclésiastique, m'ont seul détourné de cette passion, du reste fort innocente et inutile, très utile à la santé. » Enfin, au bout d'une ou deux heures, nous étions les meilleurs amis du monde. Il connaissait M. Brigolant, M. Poirier, M. Stecken, tout le personnel du collège de Sainte-Suzanne, et M. le curé Blanchard aussi bien que moi, ce qui ne laissait pas de m'intriguer un peu. À la table d'hôte, il me plaçait près de lui, me servait lui-même, et quand le conducteur voulait presser le départ, sortant une grosse montre d'or à la papa, il disait gravement « Nous avons encore droit au café, 5 minutes bien comptées, conducteur. » Et le conducteur ne répliquait plus. Je me souviens que dans notre longue conversation, par le fait de je ne sais quel hasard, il fut question des pères de l'Église, Saint Grégoire, Saint Jean Chrysostome, Saint Ambroise, et comme sous ce rapport M. Poirier n'avait pas négligé mon instruction, qui lui était fort recommandée par le principal, il s'émerveillait de mon érudition. Il me donna quelques indications sur les nouvelles conférences catholique récemment instituée rue Jacob et ailleurs, sur l'excellente société qui les fréquentait, mais le tout en forme de parenthèse, sans m'engager autrement à les suivre. En résumé, et grâce à lui, ce long voyage de 38 heures se passa comme une minute. La seconde nuit pourtant s'écoula dans la somnolence. J'étais accablé de fatigue. Le conducteur, qui me prenait dehors décidément pour un calotin, ne m'adressait plus la parole. Et le lendemain, vers 7 heures, Paris était sous nos yeux. Nous le découvrions des hauteurs de Pantin, sur une étendue prodigieuse. Ses dômes, ses tours, ses toits, baignés dans les brumes d'octobre, s'illuminaient aux premières lueurs du soleil. Bientôt un rayon splendide, perçant le brouillard, fit scintiller les flèches de ses plus hauts édifices, puis les enfilades de ses rues, la courbe de ses boulevards, les cimes de ses jardins, de ses avenues, de ses promenades, sa colonne de Juillet à gauche et tout au loin à droite, son arc de triomphe de l'étoile, doré par le levant. J'en étais émerveillé. Enfin, notre diligence franchit les barrières et s'engouffra dans les rues avec un bruit de tonnerre Au mieux des coucous, des tilburies, des cabriolets, des charrettes, des fiacres, des voitures de toutes sortes, qui se multipliaient à mesure que nous avancions. Les passants se retournaient et se garaient le long des trottoirs. Les restaurants, les magasins, les ateliers, les étalages se succédaient. Cette première impression tumultueuse est restée ineffaçable dans ma mémoire. Elle tenait de la stupeur. Monsieur le curé me parlait encore, mais je ne l'entendais plus. Une demi-heure après, nous entrions dans la cour des messageries, rue Notre-Dame des Victoires. Là, descendant le premier de l'impérial, monsieur le curé m'attendit en bas pour me tendre la main, puis il me remit sa carte où je lus « Monsieur Roseraye, chanoine promoteur à Beauvais. »« Mon cher ami, me dit-il, j'espère que vous viendrez me voir. Beauvais n'est pas loin de Paris. Nous avons des chasses, des fusils, des chiens, tout ce qu'il faut pour bien vous amuser. Je vous présenterai à monseigneur. Vous serez parfaitement reçu. » J'étais touché de cette invitation gracieuse. « Vous viendrez, n'est-ce pas » dit-il, « quand ce ne serait que pour 2 ou 3 jours, aux vacances de Pâques. » Je ne pouvais m'engager, mais je lui promis de faire mon possible. Et notre bagage étant déchargé, nous nous séparâmes comme de vieilles connaissances. Le conducteur ne fut pas fâché de le voir s'éloigner dans un fiacre sans avoir déposé sa plainte au bureau de l'administration. Moi, je partis pour le quartier latin. À midi, je me trouvais installé chez M. Martin, ancien cocher de la duchesse de Berry, qui tenait un petit hôtel dans l'impasse des Poirets, non loin du Panthéon, avec Mme Gertrude, son épouse, et sa belle-sœur, Mlle Jeannette. Madame Gertrude tirait le cordon, Mademoiselle Jeannette faisait les chambres des étudiants. Elle était rousse et fort laide, bonne condition de moralité. Et Monsieur Martin élevait des poules et des lapins dans une petite cour noire comme un puits. Le soleil n'y descendait qu'en juin et juillet, durant quelques instants, et l'on voyait alors les lapins grignoter une feuille de chou dans l'ombre et se dresser au mur comme des rats en agitant leurs moustaches. Aussitôt établi, mes effets serrés dans les placards, je me jetai sur mon lit. Oh, le sommeil ne se fit pas attendre, et lorsque je m'éveillai, le gaz brillait sur mes vitres. Il était 8 heures du soir. Et, regardant à ma fenêtre, je vis l'enfilade des becs de gaz dans la rue des Grès, ce qui me produisit l'effet d'une lanterne magique, cette lumière étant encore inconnue à Sainte-Suzanne. Puis je m'habillai, je descendis mes étages pour me restaurer quelque part. Bon, je ne vous raconterai pas mon premier dîner chez M. Desforges parmi 50 autres jeunes gens venus de tous les points de la France. Les uns de seconde ou de troisième année, groupés à la même table et fraternisant entre eux, les autres, nouveaux venus comme moi, isolés, cherchant à se connaître, à se lier, lisant le programme de l'école et s'informant de l'ouverture prochaine des cours. Sorti du restaurant, j'allais jeter un coup d'œil le long des quais, délibérant sur le choix des professeurs de première année que j'avais à faire. Les plus renommés à Sainte-Suzanne étaient M. Duranton pour le droit civil et M. Duc au roi pour le droit romain. Mais je les choisis à tout hasard, et vers 11 heures, étant entré dans ma chambre, je me recouchai et je me rendormis comme un bienheureux au brouhaha du quartier.